Bonjour tout le monde. Dans nos milieux chrétiens, on parle beaucoup d'évangélisation. On évangélise, on essaye d'évangéliser. On sait que c'est important. On sait que c'est important pour Dieu parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Donc c'est quelque chose qu'on a en général à cœur, en particulier dans les milieux évangéliques. Mais une fois sauvés, que se passe-t-il? Est-ce qu'il reste plus qu'une attente jusqu'au retour de Jésus? Ouf, non? La conversion, c'est pas l'objectif final, mais c'est un petit peu comme une porte d'entrée, parce qu'il y a une suite. Et c'est cette suite qu'on devrait avoir en ligne de mire, que ce soit pour notre propre vie ou que ce soit pour la vie de ceux qu'on amène au salut. On ne devrait pas se dire, quand on a amené quelqu'un au salut, on ne devrait pas se dire « c'est bon, c'est fait ». Et puis laisser la personne toute seule dans la nature. On devrait mettre en place, soit soi-même si on en a les compétences, soit adresser la personne à d'autres, mais mettre en place quelque chose qui fait que la personne passe la porte, mais continue le chemin que le Seigneur a tracé pour elle. Que cette personne puisse entrer dans la suite prévue. Sinon, le salut, il est très peu utile, si ça s'arrête là. Alors ce matin, j'aimerais parler de discipula. Être disciple ou faire des disciples. En fait, c'est un peu les deux. On est appelé aux deux. Mais pour faire des disciples, il faut être un disciple, sinon c'est compliqué. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que des fois l'expression « faire des disciples » est prête à confusion, ou voilà, certaines personnes utilisent cette confusion pour essayer de faire des disciples de soi-même. Et en fait, le but ultime, c'est de faire des disciples de Jésus. Donc des disciples, c'est des suiveurs. C'est des gens qui vont ressembler à Jésus, qui vont le connaître, qui vont faire la même chose que lui, qui vont le copier. Des suiveurs de Jésus. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais parler de la conversion de quelqu'un et puis voir ce qui s'est passé, voir quelle a été sa suite. Je ne peux pas entrer dans les détails, sinon on sera là encore dans 2 semaines. Mais je vais essayer déjà de faire un tout petit bout juste pour nous donner envie, juste pour allumer des étincelles en se disant « c'est ça d'être disciple ». En tout cas, c'est ça le début et je veux m'engager dans cette voie-là. Alors pour ça, on va parler de la conversion de Pierre, l'apôtre Pierre. Et je vous lis un passage dans Luc 5, 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon-Pierre, hein, c'est la même personne, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jésus avait déjà rencontré Pierre. On peut lire dans le chapitre précédent que Jésus était déjà allé chez Simon-Pierre, et qu'il avait guéri sa belle-mère. Donc ils s'étaient déjà rencontrés. Et ça, ces épisodes, c'est juste après le baptême de Jésus. Donc là, on est au tout début du ministère terrestre de Jésus. Donc, en fait, les deux hommes se connaissent encore relativement peu. Et voilà, sans encore savoir tout ce qu'il attend, sans se douter du changement de vie que Jésus va occasionner en lui, Pierre, comme à son habitude, puisque c'est son métier, part en barque sur le lac avec Jacques et Jean pour pêcher. Et après y avoir passé toute la nuit, il revient bredouille. Autant rentrer chez lui. Je ne sais pas si entre vous, il y a des gens qui ont déjà fait des veilles, qui ont travaillé de nuit. Dans le cadre de mon métier, j'en ai fait pendant un certain nombre d'années. Ben, quand on a fini la nuit, on a juste un objectif. Dormir. Alors, des fois, on ne peut pas, mais qu'est-ce que c'est dur. Pierre, il a bossé toute la nuit. Il n'a rien pris, en plus de ça, il est frustré, et il a envie de rentrer chez lui et de dormir. Et voilà, il arrive sur le rivage, et il y a Jésus. Et avec Jésus, il y a une foule qui le presse. Et Jésus ne peut pas enseigner depuis là, donc il dit à Pierre, « Je monte dans ta barque. » Jésus s'invite dans la barque de Pierre. Et Pierre l'accueille. Jésus, il enseigne. Il enseigne la foule. Et je suis sûre qu'il était passionnant, et c'est pour ça que Pierre certainement ne s'est pas endormi. Mais à un moment donné, Jésus, il a fini d'enseigner la foule. Alors là, Pierre, il va se dire, « Yes, je rentre chez moi, je vais dormir. » Mais non, Jésus lui dit, « Va en eau profonde, éloigne-toi du rivage, va en eau profonde et jette les filets. » Alors Pierre, il est rationnel. « Maître, aujourd'hui, on n'a rien pris. Il n'y a pas de poisson, que pouque, niette, rien. C'est un jour sans. » Mais Pierre, il a une bonne disposition de cœur. Et je crois que c'est ça ce qu'on doit rechercher. C'est comprendre cette disposition de cœur qu'il avait et travailler le nôtre pour avoir la même. Parce que sans comprendre, il obéit. « Maître, on n'a rien pris de toute la nuit. » Mais c'est ok, sur ta parole, je jetterai les filets. Et il est parti en eau profonde. Il repart pour une journée de travail, sans avoir dormi. Il obéit. Et c'est la pêche miraculeuse. C'est le jackpot. C'est le pactole, une montagne de poissons. C'est énorme, c'est une immense fortune. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ben, il aurait pu se jeter sur la marchandise. Il aurait pu se dire, ouah, je vais faire trois fois le tour du monde, je vais changer de voiture, je vais acheter une maison. Bon, je vais en donner un petit peu autour de moi, mais c'était le pactole. Et au lieu d'avoir cette attitude, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il voit pas le miracle. Il voit pas l'abondance. Il voit la personne du miracle. Il voit la personne de l'abondance. Il voit la divinité de Jésus. Il est en train de voir le Créateur qui maîtrise les éléments de sa création. Il est en train de voir quelqu'un qui a une autre nature que lui. Il est en train d'assister à une démonstration de puissance qui le dépasse complètement. C'est tellement fort, il est tellement transpercé de cette révélation que instantanément il se voit lui. Il voit qui il est lui-même. Il voit sa nature. Il voit qu'il est différent. Il voit qu'il est sale, qu'il est pêcheur, qu'il est souillé. Ça, c'est à cause de sa disposition de cœur. Alors au verset 8, on voit que Jésus dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Obéissance, révélation de la divinité de Jésus. Conviction de péché. Alors il laisse là son jackpot et il quitte tout pour suivre Jésus. Pour moi, cet épisode, c'est la conversion de Pierre. C'est noté nulle part dans la Bible, mais pour moi, la démarche qui s'est passée en lui, c'est ça. Et pourtant, Jésus n'était encore pas passé à la croix. Donc il ne pouvait pas encore comprendre exactement ce que ça voulait dire. Mais il avait déjà été transpercé par le Saint-Esprit, il avait déjà reçu une révélation qui a fait que sa vie a été transformée, qu'il a vécu un changement radical. Il n'a pas trop regardé ce que Jésus a fait, mais il l'a vu Jésus, il l'a vu lui. Son cœur a été transformé, au point qu'il y a eu une suite. Au verset 11, « Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Alors tout quitter, ça ne veut pas dire que Pierre a quitté sa femme, ses enfants, sa famille. Non, ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, quand on lit même les épîtres, on voit que Pierre avait son épouse avec lui à certains moments. Donc, non, c'est pas ça que ça veut dire, tout quitter. Tout quitter, c'est quitter des habitudes, c'est quitter des priorités, c'est entrer dans un chemin de sanctification, c'est, au lieu de regarder à soi-même, à ses besoins, à ses aspirations, à ses désirs, c'est regarder à Jésus. C'est quoi ta volonté, Seigneur? Comment est-ce que je peux te glorifier dans telle situation? Qu'est-ce que tu veux pour ma journée? C'est avoir le regard toujours fixe sur Jésus plutôt que sur soi-même. C'est apprendre à le connaître, c'est marcher à sa suite. Et avant de monter au ciel, Jésus, dans Matthieu 28, 19, 20, il a dit aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a donné un mandat, c'est de faire des disciples, de le suivre. Et tout quitter, c'est ça. Tout quitter, c'est suivre Jésus. Faire des disciples, donc déjà devenir soi-même un disciple. Et il y a là un commandement que les disciples ont reçu, mais ce commandement, il est toujours valable pour chacun d'entre nous. Peu importe le niveau où on en est, qu'on soit un tout jeune converti, ou qu'on ait des années de conversion, qu'on ait un grand ministère ou pas, on est tous appelés par notre attitude, par les détails de notre vie, par le comportement, par notre vie de prière, à être disciples et à impacter, donc à être un témoignage vivant, ce qui permet à d'autres de devenir disciples, ce qui permet à d'autres d'avoir envie de vivre la même chose. Il y a un commandement. Alors, c'est vraiment important parce que si on n'entre pas dans cette démarche-là, eh bien, on en reste au pactole. On en reste à la bénédiction, on en reste à l'exaucement, à la montagne de poissons. Et les poissons, ils vont s'épuiser. À un moment donné, il y en aura plus. Donc, la conversion est une étape, juste une étape. On a le choix d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, le truc, c'est qu'il faut accueillir Jésus dans notre barque. Et quand il nous dit de jeter les filets, ben il faut jeter les filets. Jésus, il veut nous transformer, comme l'a été Pierre. Il veut nous former, il veut nous instruire, il veut nous façonner. Ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons intimes avec lui, que nous ayons une communion profonde. C'est vraiment le désir de son cœur, avec chacun, quelle que soit notre vie. Et le moyen qu'il a choisi, ou les moyens qu'il a choisi, entre autres, mais fondamentalement, c'est la prière et c'est la méditation de sa parole. Il aimerait qu'on vienne régulièrement se présenter devant lui, seul à seul, dans le lieu secret, pour avoir un temps d'intimité, un temps de communion. Et c'est dans ces moments-là qu'il commence à sonder nos cœurs, à nous travailler, à nous instruire, à nous former, à nous visiter, à nous changer. C'est là que tout se passe. Ça demande de faire abstraction du reste, de prendre des moments seuls avec Jésus. Bloquer un rendez-vous régulier avec le Seigneur dans notre agenda, entrer dans le lieu secret, passer du temps dans l'intimité avec Jésus, être conscient de sa présence, être conscient qu'il est là dans notre barque, être conscient que le Père est là et qu'on a sa faveur, que le Saint-Esprit est là pour nous aider, entrer dans cet état d'esprit-là, ça c'est accueillir Jésus dans notre barque. On ne sait pas toujours quel sujet il faut prier. Ok, je vais prier, je ferme ma porte, je m'installe. Des fois, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut rechercher, c'est autre chose qu'une prière intellectuelle ou un monologue. Et un des moyens, c'est simplement d'entrer déjà dans la louange. De dire au Seigneur tout ce qu'il a fait, de le remercier pour ce qu'il a fait, de le remercier pour qui il est, de dire tous ses attributs. De commencer à dire ça, simplement, ça va aider aussi le Saint-Esprit à nous inspirer. Et tout à coup, ça va élargir, ça va approfondir, ça va nous permettre d'aller dans des domaines ou des sujets, d'être inspirés d'une manière où on ne s'y attendait pas. C'est aussi ce moment, le début, de présenter à Dieu tout ce qui nous préoccupe, ce qui nous charge. Si on a quelque chose à confesser, ben c'est le moment, c'est là qu'il faut le faire. Et ensuite, on bénit le Seigneur. Et petit à petit, tout à coup, il y a des pensées qui viennent, vraiment on ne s'y attendait pas, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur spirituellement. Et ça, c'est s'éloigner en eau profonde. On s'éloigne du rivage. On commence vraiment à entrer dans une dimension beaucoup plus profonde de notre intimité. Et à un moment donné, il faut jeter le filet. Pierre, il a dit, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et pour parole, le mot qu'il a utilisé, on aurait pu s'attendre à ce qu'il utilise le mot « logos » en grec. Logos, ça veut dire le mot, le discours, la parole. Mais non, Pierre, il a utilisé le mot « rhéma », qui a un sens beaucoup plus profond. C'est la parole révélée, la parole agissante. C'est la notion de révélation dans ce mot « rhéma » est très forte. Pierre, il a dit « sur ta parole révélée, sur ta parole agissante, sur ta parole qui va faire la différence, je jetterai le filet. » Lire la Bible, c'est bien, c'est important, mais la méditer, c'est primordial. Et quand on la médite, on jette le filet. Sur la parole agissante, on jette le filet. Ça veut dire que cette parole, elle va commencer à faire son œuvre en nous, elle va commencer à nous transformer. Elle va ouvrir nos yeux spirituels sur des réalités auxquelles on n'avait pas pensé ou tout à coup il y a des écailles de nos yeux qui tombent. Cette parole, elle va nous donner des stratégies. Par exemple, si vous vivez une situation difficile ou conflictuelle ou un problème à votre travail ou dans votre famille, la parole peut vous donner des solutions pour savoir comment vous adresser à une personne ou comment prier pour elle ou quelle attitude adopter dans telle ou telle situation. Ou ça peut simplement vous permettre de comprendre ce qu'un personnage biblique a vécu et comment l'appliquer à votre propre vie. Comment appliquer les choses de la parole de façon mais totalement basique dans votre quotidien. Et ça, au fur et à mesure de vous transformer, ça va se voir. Et vous devenez disciple parce que le Seigneur, en fait, il vous remplit de plus en plus, vous lui ressemblez de plus en plus, mais vous allez aussi devenir de plus en plus puissant. Et c'est comme ça que ça va nourrir votre prière et votre intercession. Et ça, c'est quand vous ramenez le pactole, les poissons, vous les ramenez sur le rivage, c'est que vous avez vécu des moments tellement forts que quand vous commencez à intercéder, et bien vous voyez le résultat de vos prières. Vous voyez des gens autour de vous qui sont transformés parce que vous persévérez dans la prière avec cette parole agissante, avec la révélation, l'assistance du Saint-Esprit. C'est là que commence le discipulat, le fait d'être disciple. C'est dans le lieu secret, c'est en intimité avec le Seigneur. Moi, ma pêche miraculeuse, c'est quand j'assiste à la démonstration de puissance de Dieu, c'est quand je sens que je suis transformée, quand je comprends que j'ai passé à l'étape supplémentaire. Quand je sens que je suis intime avec le Seigneur. Que se serait-il passé si Pierre avait dit au Seigneur, laisse tomber maître, il n'y a rien ici. Je pense que Jésus aurait choisi quelqu'un d'autre. Et moi, je me dis, avec ce que le Seigneur m'a donné, avec les mandats que Dieu m'a donné, si j'ai la flemme de jeter mes filets, j'aimerais pas qu'il donne ce qu'il m'a donné à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que je ne m'en remettrai pas. Et j'aimerais pas qu'une fois arrivé au ciel, Jésus, quand il me demandera de jeter tes filets, j'aimerais pas avoir à lui dire, Seigneur, j'avais la flemme. Mais je sais qu'il y a souvent où j'ai la peine. Et quand ça arrive, je suis pas très fière. Mais le Seigneur est tellement bon que je peux à chaque fois retourner vers lui. Je lui demande pardon, je sais bien ma nature, mais il me fait tellement grâce que je peux continuer. Il est question d'une deuxième pêche miraculeuse dans la parole. Et celle-là, elle est à la toute fin du ministère terrestre de Jésus. C'est même après la résurrection, c'est pendant les 40 jours où Jésus était encore sur terre, juste avant de monter au ciel. Et cette histoire, on la trouve dans Jean, au chapitre 21. Alors, je vais déjà vous lire le début. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas et Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc Pierre savait que Jésus était ressuscité. Il l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Mais Jésus ne l'accompagnait plus comme avant. Il apparaissait, il disparaissait. Mais c'est pas parce que les circonstances avaient changé que le mandat de Pierre s'arrêtait. Et le mandat de Pierre, Jésus le lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ça, c'est de l'évangélisation. Tu vas sauver les hommes. Donc ce mandat d'évangélisation, il demeure. Amener les gens au salut. Les circonstances ont changé. Pierre, il a vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il le voyait jour et nuit. Il le voyait avec ses yeux. Il l'entendait avec ses oreilles physiques. Et tout à coup, c'est autrement. Tout à coup, sa foi doit être mise en action différemment. Il doit voir à l'intérieur de lui-même. Il doit voir dans les lieux spirituels autrement qu'avec ses yeux. Il doit entendre le Saint-Esprit parler en lui, mais pas avec ses oreilles. Il doit comprendre les choses différemment. Il doit passer à l'étape supplémentaire. Il faut qu'il mature. Alors, devant la difficulté, bon les gars, moi, je vais pêcher. Et les autres disciples, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Moi aussi. Allez, on regarde avec toi. Ils retournent tous à leur ancienne vie. Ils retournent tous à leur ancienne habitude. Mais Jésus ne les laisse pas faire. Quelle grâce! Jésus ne les laisse pas faire et encore il démontre sa puissance. Et vous avez vu, dans cette deuxième pêche miraculeuse, les filets ne se rompent pas. Je vous lis la suite. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus, il est en train de dire à Pierre, « Ton mandat, c'est l'évangélisation, mais pas que. Il y a aussi le discipulat. Tu dois t'occuper du troupeau. Tu dois le nourrir. Tu dois l'instruire. Tu ne dois pas le laisser là errant. Il y a une suite. Tu dois en faire des disciples. Continue de travailler pour moi. Ça ne s'arrête pas. Tes filets ne se sont pas déchirés parce que le troupeau est grand et qu'il ne s'arrêtera jamais. Du travail, tu n'en manqueras pas. C'est pas fini. Moi, je retourne vers le Père et c'est de là que je vais t'aider. Mais toi, travaille pour moi. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Nourris mon troupeau. » C'est à nous aussi que Jésus dit ça. Dès qu'on a la connaissance de Dieu, dès qu'on a reçu le Seigneur en nous, c'est à nous de faire pareil. À notre niveau, selon ce qu'on peut. L'appel de Jésus est tellement fort, Jésus est tellement déterminé à utiliser Pierre, qu'il lui signifie que ça ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura pas de retraite. Pierre servira le Seigneur toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et même, Jésus lui annonce de quelle mort il va mourir, au travers de la persécution. C'est les versets suivants, dans Jean 21, 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Jésus ne fait pas de la dentelle. Là, il a que faire des émotions. Il dit à Pierre, « Tu tendras tes mains. Et avec ta ceinture, on va les lier. Et on va aller te faire mourir. Mais toi, suis-moi. » Justine, c'est pas grave, je te dis juste, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas grave, continue, suis-moi. Mais Pierre, il est bien humain. Ça me rassure, parce que quand même, c'est vraiment dur. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Pierre, il essaie quand même de négocier un peu en disant, « Mais Seigneur, je ne serai pas tout seul dans cette galette. » Et Jésus, il lui dit, « Qu'est-ce que ça peut faire ? Toi, suis-moi. » Il n'est pas en train de lui dire, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'entourerai par devant, par derrière. Bien sûr, ça c'est sa parole. Mais à ce moment-là, son appel à Pierre, il est individuel, il est personnel. J'ai quelque chose pour toi. Toi, suis-moi. Bien sûr que t'auras des galères, mais suis-moi. Parce que dans le fait de me suivre, il y a quelque chose de bien plus important que tout le reste. Il y a une espérance glorieuse qui t'attend. C'est tellement plus grand. C'est difficile quand on est un être humain et qu'on vit sur la terre de se dire « Mais ma vie ici, en fait, elle n'est pas si importante. C'est Jésus qui est important. Si je fais sa volonté, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné jusque dans l'éternité. » C'est pas facile. Mais là, Jésus est radical. Mais même si t'es tout seul, même si tous les autres s'en sortent, que t'importe, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Et tu vas mourir par la persécution. Mais suis-moi. Et moi, je crois que Jésus nous dit à chacun d'entre nous, que t'importe les dons de ton voisin, Que t'importe le ministère de ton voisin. Que t'importe les réussites de ton voisin. Que t'importe les échecs de ton voisin. Toi, suis-moi. Dans Marc 10, 28 et 30, il est dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a juste ce petit mot qui est coincé entre deux. On va savoir tellement de belles choses avec des persécutions, mais ce sera tellement bien. Servir le Seigneur, c'est comme ça. Il y a des galères, il y a des persécutions. Et des fois, les persécutions, l'opposition, elle vient même de nos proches. Mais des fois, elles viennent de circonstances extérieures. Des fois, elles viennent de façon intentionnelle, des fois pas du tout. Des fois, on commence à se mettre à entrer dans un temps de prière. Et si après ce message-là, vous vous dites, allez, moi, je veux dire quelque chose de plus, je veux aller en eau profonde, je veux jeter mes filets, comprendre cette parole révélée, et que vous passiez à l'étape supplémentaire de là où vous en êtes déjà, c'est bien possible qu'il va y avoir des galères. Mais il faut pas en avoir peur. C'est bien possible que tout à coup, quelqu'un dans votre entourage va pécoter un peu d'une manière ou d'une autre. C'est possible qu'on vous cherche des noises. C'est possible que tout à coup, vous ayez une telle migraine que le moment que vous aviez réservé pour prier, eh ben, vous n'y arrivez pas parce que vous avez trop mal à la tête. Ça, c'est typique. Mais le doigt de Dieu, il fait partie des démons comme ça, le doigt de Dieu. C'est Jésus qui dit, si avec le doigt de Dieu, je chasse. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses, il faut plutôt se dire, je suis au bon endroit. C'est normal que ça se passe comme ça. Ça fait partie. Mais vous êtes beaucoup plus fort. Parce que celui qui est en vous est beaucoup plus fort. Il faut persévérer. Et plus vous persévérez, plus vous avez une stratégie, plus vous avez la puissance, et plus ces choses-là, elles s'éloignent. Alors, il est vrai que Pierre a été mandaté pour un grand ministère. Un énorme ministère. C'est pas le cas de tout le monde. De loin pas. Mais pour chacun à notre niveau, on a un mandat. Et ce que Jésus veut, en priorité, c'est que nous l'aimions, c'est que nous le connaissions, c'est que nous le suivions, c'est que nous soyons partenaires, même dans les toutes petites choses. On a le choix. Se contenter de notre salut ou apprendre à le connaître, à l'aimer, au point de chercher à le servir comme il nous le demande, avec tout ce que ça signifie comme défi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire le bilan de votre vie spirituelle? Est-ce que vous savez où vous en êtes avec le Seigneur? Je pense que c'est bien régulièrement de se poser la question. Moi, ces derniers temps, j'en étais à l'étape où j'ai lu des textes, des enseignements sur la prière, et il y a un enseignant qui disait, qui a pris le texte dans l'Apocalypse, des reproches qui sont faits à l'église d'Éphèse. Éphèse qui avait plein de bonnes œuvres. Mais Jésus lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et je me disais, mais Seigneur, j'en suis où de mon premier amour? Je sais même pas ce que c'est mon premier amour. Moi, j'ai toujours connu le Seigneur, j'ai pas eu une conversion radicale. Je sais même pas ce que c'est mon premier amour. J'aimerais retrouver ce premier amour. J'aimerais pouvoir dire, je sais que je sais que je sais que je vis ce premier amour. Alors ça a été un de mes objectifs. Je me dis, ça, moi, c'est ce que je vais rechercher. Sentir que je suis vraiment dans le premier amour du Seigneur. Je pense que c'est bien régulièrement de se dire, où est-ce que j'en suis? Et de persévérer, de chercher, de marcher. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas s'arrêter, mais toujours être en marche, suivre le Seigneur. Et je vous encourage à le faire. Même si votre vie spirituelle va bien, et tant mieux, parce que c'est quand même ce qu'on est censé vivre, dites-vous, ouais, ça va bien, c'est l'occasion d'aller encore plus loin. Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Les deux fois, quand Pierre va pêcher, il revient près de lui. Mais ces deux fois-là, Jésus n'était pas avec lui. Et deux fois où Jésus était là, soit dans la barque, soit sur le rivage, sa parole agissante a fait toute la différence. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Dans nos moments de prière, dans nos moments d'intimité avec le Seigneur, il faut s'assurer que Jésus est soit sur le rivage, soit dans la barque. Et il faut jeter le filet sur la parole révélée, agissante de Jésus. Il faut pas accepter d'aller dans des monologues, dans des prières intellectuelles. Et il y a des jours où il se passera rien. C'est ok. Mais juste être conscient, Seigneur, t'es là. Aujourd'hui, c'est vide pour moi. Mais tu es là. Et juste le remercier pour sa présence. Et tout ce qu'on fera sans Jésus dans notre barque ou sur le rivage, ce sera vain. Alors, je vous encourage à prendre Jésus dans votre barque, même quand vous n'avez pas de rond. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le cœur de Pierre qui nous a précédés et qui nous montre comment nous disposer pour te recevoir. Merci parce que Pierre était complètement humain et on peut se reconnaître dans ses réactions. Et je te demande que son exemple puisse nous aider à disposer notre cœur pour te recevoir, pour t'obéir, pour avoir envie de te connaître, pour avoir envie de te suivre. Seigneur, tu nous as dit qu'il y aurait des persécutions, tu nous as dit que ce serait difficile. Tu n'as jamais dit que te suivre ce serait facile. Tu n'as jamais dit que se convertir, ça changeait tout et tout irait bien. Jamais. Et tu nous as dit que tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que tu ne nous laisserais pas orphelins parce que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Et que tu nous as donné une espérance glorieuse. Que nous sommes déjà assis avec toi dans les lieux célestes, à la droite du Père. Alors je te demande de nous faire la grâce par ton Saint-Esprit, de nous donner la capacité de recevoir tes révélations. Je te demande que pour chacun de nous, on puisse vivre des temps particuliers d'intimité, de communion avec toi dans le lieu secret. Qu'on puisse trouver ce chemin où tu nous parles, où tu nous mènes dans l'eau profonde. Où ce n'est plus nous qui dirigeons notre prière, mais où c'est toi par ton Saint-Esprit. Que l'on puisse jeter le filet et récolter tout ce que tu veux nous donner. Je te demande que ça nous transforme, chacun d'entre nous. Montre-nous à chacun comment il faut s'y prendre. Que ce soit une priorité d'avoir les yeux sur toi, de vouloir faire ta volonté. Je te demande de nous apprendre, de nous aider dans notre faiblesse. Et je te remercie parce que je sais que tu es le bon. Merci de nous donner le vouloir et le faire. Merci Jésus, merci pour ta parole. Merci Père, merci Saint-Esprit. Amen.
Amen.